s'estompe tout de suite parce qu'on se dit mais ces gens c'était tellement bien organisé, on se sentait vraiment super bien. Et donc moi en faisant cette organisation là, j'avais envie d'un peu de retrouver ce sentiment là, d'avoir quelque chose de vraiment vraiment propre, vraiment carré, où tout le monde puisse avancer et que on n'ait pas à se préoccuper de petits détails, de petits problèmes, qu'on puisse juste se concentrer sur ce qui était important, c'est-à-dire l'aspect militant et aussi l'aspect groupe. Et bah moi, c'est vraiment ça que je ressens là, au bout de 4 jours de vélo. On arrive presque à la fin et en fait, se dire qu'on n'a jamais eu de problème, bon, à part cette histoire de gendarmes qui nous suivent tout le temps, mais ça, on n'y peut rien. On n'a jamais eu de problème d'organisation et donc j'ai pu juste profiter, faire du vélo, découvrir plein de gens. C'est surtout ça qui est le plus incroyable. Enfin, découvrir de gens de tous âges, de presque tous les horizons, des gens que j'aurais jamais croisés avant, ou alors peut-être que j'aurais croisé mais jamais parlé. Et franchement, c'est une super aventure. Vraiment, sur le plan humain, là, ça se termine demain et j'ai pas envie que ça se termine, quoi.
Ça donne envie de faire plus ?
Ah oui, évidemment. Ça, c'est sûr, ça donne envie de faire plus. Ça donne envie de s'investir. Alors, moi, j'aime Boxy. Je suis assez intéressé par organiser des choses de manière générale. Donc, ça donne envie peut-être de se mettre dans l'organisation de trucs un peu plus grands. Pourquoi pas direct. Enfin, par exemple, dans l'organisation du village de l'eau, tu vois, ce genre de trucs qui sont déjà beaucoup plus conséquents. Mais en tout cas, de refaire ce genre d'événement, évidemment, organiser ou ne serait-ce qu'y participer, c'est vraiment quelque chose de fou, quoi.
Merci Paprika.
Eh bien, avec plaisir.
Mais tu peux nous rappeler ce qui s'est passé ce matin ?
Ben en fait, ce matin, j'avais visite. J'étais en train de passer la tondeuse dans mon jardin. Et j'ai vu deux véhicules qui. Alors c'est en pleine campagne, aspect un peu paysage ouvert. Deux véhicules qui remontaient sur une petite route communale. Et puis, ils m'ont aperçu dans le jardin. Ils ont fait demi-tour. Ils sont rentrés dans le champ. Ils sont venus à ma hauteur. Et ils m'ont demandé si j'étais bien monsieur. Corredoga. Et j'ai dit que oui. En fait, il y avait un véhicule avec un compresseur derrière. Et puis un autre véhicule bleu, j'ai cru que c'était les techniciens d'EDF qui venaient pour entretenir un poteau qui est à côté. Donc je ne me suis pas trop méfié. Et en fait, ils venaient me menacer pour me dire que j'accueillais un convoi, j'accueillais des gens de BNM, et que s'il y avait par hasard des malversations qui étaient faites sur les fermes dans la nuit, ils viendraient me faire payer. Donc menace directe, ils n'ont pas voulu me dire qui ils étaient.
C'est vraiment de l'intimidation pure et dure.
Une intimidation pure, et puis ça répond à visiblement un appel qui a été fait par la coordination rurale de dire que les gendarmes font pas leur travail et qu'eux allaient le faire à leur place. Quoi.
Ouais, c'est pas juste un acte isolé, c'est un appel des chambres agricoles, enfin des syndicats.
D'un syndicat au moins, faut pas, ouais, pas faire d'amalgame. Ouais. La coordination rurale, et puis après ils sont cartés, enfin. Ils se croient au paradis là, avec les résultats des élections. Ils n'ont plus de limites. Hein. Mais là, ils avaient préparé. Ils savaient qui j'étais. Ils savaient où me trouver. Ils ont dit qu'ils avaient vu mon nom sur la boîte aux lettres. Il n'y a pas mon nom sur la boîte aux lettres. Donc voilà, ils s'étaient préparés. Visiblement préparés.
Et ils savaient qu'on arrivait ce soir avec le convoi.
Ouais, mais ils ne savaient pas où. Donc j'aurais dit que ce n'était pas chez moi, mais je n'aurais pas dit que c'était. Mais bon, ce qui est l'intimidation qui est incroyable. Et puis... J'ai fait une plainte à la gendarmerie, parce que je ne veux pas laisser ça sans suite, par principe.
Et comment tu as été reçu à la gendarmerie ?
Bah, dans un premier temps, c'était un peu... c'est que des menaces, il n'y a pas de quoi faire une plainte. J'ai dit, bah, écoutez, peut-être pas une plainte, mais au moins une main courante. Enfin, ils n'ont pas très envie, quoi. Et puis, j'ai quand même insisté. J'ai dit que s'il fallait voir le procureur, j'irais voir le procureur, si vous voulez pas m'écouter. Du coup, cet entretien-là, ça n'a pas été. Progressivement, ça s'est amélioré. Et après, il y a d'autres gendarmes qui sont venus chez moi une demi-heure après, à peu près. Et là, c'était beaucoup plus précis. Des gens qui ont fait leur boulot, qui ont fait bien leur boulot. C'est plutôt presque agréable. J'ai honte de le dire.
Ouais. Et sur la plaque d'immatriculation, tu as pu la noter ?
Oui, j'ai noté la plaque d'immatriculation, mais c'est une fausse.
D'accord.
Puisque ça correspond à une immatriculation de moto, ils n'étaient pas en moto.
Et donc ça, on voit bien que du coup c'est très organisé parce tout que même fait. Ça est prévu en avance.
Exactement, c'est ça qui me fait le c'est ce que j'ai dit aux gendarmes. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils aient pris le temps de camoufler leur plaque d'immatriculation pour venir chez moi. Mmh. Et puis après, moi, dans l'émotion, il y avait un deuxième véhicule, je porte relever sa plaque.
Ça aurait été peut-être le même résultat.
Peut-être, mais si ça avait été le même résultat, c'était flagrant. Ouais. Parce que là, on reste sur le doute.
D'accord, ouais.
C'est moi qui ai mal lu la plaque.
Bon, mais merci.
Tu peux nous rappeler un peu la situation de la Confédération paysanne dans ton département ?
Oui, alors ce que je disais, l'année dernière, on nous a envoyé une lettre disant que la Confédération paysanne ne respectait pas les valeurs républicaines et donc pour cela, elle nous enlevait notre subvention qu'elle nous donnait depuis toujours, qui est quand même de 6 000 euros. Et donc ça fait 2 ans qu'on ne touche pas cette subvention, donc du coup forcément...
Qu'est-ce que ça impacte en termes d'emploi, de salaire dans votre syndicat ?
Ça impacte la pérennité du syndicat même parce qu'en fait on était déjà, si tu veux, bancal financièrement ou bien alors tout juste. Et c'est 6 000 euros en moins chaque année. Et clairement, c'est des animations en moins qu'on fait, des combats en moins qu'on mène, et puis du temps, ouais, de la formation. Et puis notre salarié qu'on doit prendre sur moins de temps horaire parce que pas suffisamment d'argent pour payer. Et puis aussi la fatigue de... c'est déjà avoir nos fermes, militer à côté, et puis en plus militer avec, tu vois, ce poids sur l'épaule où tu te dis, putain, mais on n'a pas... On n'aura peut-être pas de quoi payer notre animatrice à la fin du mois. C'est pesant, c'est lourd, et c'est moins d'énergie disponible pour être militante et militant.
Le long du long, du long de l'eau, on est venu de Bordeaux à vélo. Le long du long, du long de l'eau, accueillez le convoi de l'eau, accueillez le convoi de l'eau. Le long du long, du long de l'eau, on est venu de Bordeaux à vélo. Le long du long, du long de l'eau, rejoignez le convoi de l'eau, rejoignez le convoi de l'eau. Laisse-nous passer, on veut pédaler, laisse-nous rouler. Tu n'es pas forcé de nous contrôler, de nous demander où sont nos papiers. Où sont nos papiers ? Volatilisés, perdus dans les prés, tombés dans les blés. Déclarés volés, à toi de chercher, moi qui faut verser, laisse-nous passer.
C'est ainsi que se termine ce reportage, le dernier reportage du Convoi de l'eau pour La Clé des Ondes et Méga Radio. On a eu un grand plaisir de rouler ensemble. On a vécu des choses assez terribles, mais aussi très heureuses. Donc on se retrouve à la rentrée pour peut-être un documentaire encore plus long sur cette expérience du Convoi de l'eau de Bordeaux à Mel pour aller manifester contre les méga bassines. Salut.
Vas-y, c'est bon.
El pueblo unido pour le partage de l'eau partout dans le monde. Et aussi dans le Poitou, Nous nous battons pour le partage de l'eau contre l'agro, Bayer et Monsanto qui foutent la vie, qui foutent la vie KO contre l'agro, bassine qui vole les réserves d'eau. On en a gros, tous au village de l'eau. Nos bassaranes, nos bassaranes, nos bassaranes. El pueblo, unido, pour le partage de l'eau. Voilà.
Trop bien.
Comment ça va?
Ça va.
Ça a été dur?
Ça va.
Ça va.
Ça dépend pour qui.
Et tu es parti depuis quand toi?
Moi je suis parti seulement lundi matin. J'ai rejoint le cortège le dimanche soir, j'ai commencé à rouler le lundi matin.
Ouais. Et comment ça s'est passé?
C'était intéressant, une belle expérience, de belles rencontres.
Et à un moment donné, on nous a appris que vous étiez un peu dans le dur, vous avançiez pas, il y avait la police vous arrêtait. Ça s'est vécu comment ça?
C'est ce qui s'est passé ce midi. Les gendarmes nous ont bloqués à Coulon et on est resté bloqués dans une rue ensoleillée pendant 4 ou 5 heures.
Et tu sais pourquoi ils ont fait ça?
Ils voulaient contrôler les identités et nous fouiller. On a fait bloc, on a résisté, on a attendu, mais on est reparti.
Et c'était la première fois qu'on vous demandait votre identité ou
Oui, sur ma partie du convoi, oui, c'était la première fois. Les autres, je sais pas.
Et qu'est-ce qui vous a pris de faire bloc? Comment ça s'est passé
Bah, pour montrer que nous aussi, on pouvait instaurer un rapport de force. Et ça a fonctionné.
Et jusque-là, vous aviez jamais donné vos identités?
Je sais pas pour les autres, moi non, en tout cas. Et on est arrivé jusqu'ici sans contrôle d'identité et sans fouille.
T'as l'air assez fière de me dire ça, ouais.
Non, pas fière, mais c'est un constat. Quand on arrive à beaucoup, quand on fait masse, quand on résiste, ça peut fonctionner.
Et cette arrivée, comment tu l'as vécu avec tout ce monde?
On a un accueil absolument royal. C'était assez sidérant. Après avoir roulé au milieu des tournesols dans la nuit, on arrive au milieu de milliers de personnes qui nous accueillent comme des rockstars. C'est un peu perturbant. Mais merci à tout le monde.
Ouais. On a l'impression
d'arriver. Ça met du baume au cœur.
T'as envie de le refaire?
Oh bah, c'est pas la première fois et oui, je le referai autant de fois que possible.
Bon courage.
Merci.
Avoir votre sentiment, qu'est-ce que vous ressentez en arrivant?
Super, super, formidable, plein d'énergie, ah, énorme.
Ah ouais, on a bien fait de le faire.
Énorme.
Ah ouais.
Solidarité, discussion, détermination, et puis vraiment une bonne ambiance.
Du plaisir.
Mais moi, vraiment, je te dis tout à l'heure.
On voulait arriver.
Alors, on dit souvent il y a une pépite et un râteau. Donc la pépite, qu'est-ce qui était le plus beau? Qu'est-ce que vous avez vécu le plus beau dans
ce moment? D'être ensemble.
Vraiment être ensemble.
Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous?
Faire ensemble.
Ouais.
Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous?
D'être bloqué 5 heures en plein soleil par des flics. Ça pour moi c'est ça.
Les copains embarqués aussi.
Oui.
Oh, ouais, les copains embarqués.
Les malaises.
Voilà, les malaises, les copains embarqués, la détermination et puis le nombre toujours en face qui sont très nombreux.
Vous étiez combien en fait?
Nous, on était 150, mais il y avait 12 ou 13 cars, combien?
300.
Au moins 300 flics. Ils étaient le double de nous. Hein, pour pouvoir nous contrôler un par un. Donc on a refusé la fouille individuelle, on a refusé, voilà, et à un moment ils ont lâché.
150 à vélo.
150 à vélo. Et puis cette petite voiture autour et caravane voilà, qui accompagnait. Mm-hmm. Voilà.
Ouais, c'est le rapport de force, quoi.
Voilà,
on se rend compte de l'absurdité de ce genre d'action, en fait, de la part des flics. Ça mène strictement à rien, ça n'a aucune consistance et ça n'a que le but de nous emmerder.
Voilà. Si on voit bien ce soir la différence. parce qu'on a seulement un petit aura, ils nous laissent passer. Et moi, quand je suis passé, il y a deux, trois filles qui ont dit bonne soirée. Donc en gros, ils avaient dû entendre parler que ce qu'on avait fait, hein, et puis là, la porte était ouverte.
Voilà. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes galvanisé, quoi.
Ceci étant, maintenant, on sait qu'on est rentré dans une nasse et qu'on n'en sortira pas comme ça. Je crois que ça aussi, il faut qu'on en ait conscience.
Mais c'est quoi le prochain voyage? Vous partez vers où?
Après, il y a Bure. Au mois d'août, les burlesques. Mais il y en aura d'autres.
Je vous laisse profiter de la soirée quand même. Hein.
Merci.
Allez.
On va flatter nos tentes.
Manifestation interdite les 19 et 20 juillet 2024.
Bonjour Philippe.
Salut, bonjour.
On s'est déjà rencontré quelques fois entre la Rochénard et aujourd'hui sur le village de l'eau. Et tu étais ce matin à cette conférence de presse du mardi 16 juillet où tu as très brièvement parlé d'ailleurs, représentant le collectif Bassine Non Merci ce matin.
Mais carrément, c'est moi qui me suis retrouvé à présenter le collectif Bassine Non Merci alors que je suis quand même pas vraiment en ce moment légitime pour le faire. J'ai passé beaucoup de temps dans ce collectif, mais j'ai pris du recul. Ça fait quelques temps que je ne suis pas forcément très présent, mais je suis quand même là parce que c'est des amis, des copains, et c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin d'un coup de main. Il leur faut des gens pour organiser un truc pareil. Donc moi, je suis là parce que on me connaît, je connais plein de gens.
voilà, je suis repéré, ça peut je suis un facilitateur en fait sur ce village et on m'a donné la responsabilité d'être la personne un peu référente sur la ferme, la zone grise. Voilà, faire en sorte que ce lieu soit safe, qu'il n'y ait pas d'intrusion. J'ai trouvé plein de gens, on a constitué une team, on dit, hein, c'est ça, sur l'accueil de la ferme, c'est cool. Du coup, tu vois, je suis là, peinard, j'ai pas besoin d'être toujours en train de taffer, en fait. Voilà, et j'ai été invité à cette conférence de presse. Pourquoi ? Parce que souvent, on m'invite pour introduire des soirées, pour... je sais pas, peut-être parce que je l'ai déjà fait au niveau de BNM, dans des soirées un peu conflictuelles. J'ai peut-être un peu cette capacité un peu des fois à faire baisser la tension. Voilà, j'ai un âge aussi. Mon âge compte, j'ai 67 ans bientôt.
Ah, ça conserve le gauchisme. Hein.
ça permet, c'est sympa de me dire ça, mais ça me permet, tu vois, parce qu'on a quand même pas mal confronté dans nos réunions publiques souvent avec des gens plutôt de cet âge-là, les agriculteurs quadras et tout ça, on les voit pas ceux-là. Mais ceux qu'ils envoient, c'est les très jeunes. Voilà, c'est cela. Mais après, c'est plutôt des gens de mon âge. Et bon, sans doute, c'est plus facile. Ou alors, inversement, les gens de BNM plus jeunes, quelquefois, ne se sentent pas facile de prendre la parole, se retrouver confronté à des gens comme ça, aussi âgés, qui pourraient être ses parents, nos parents, puis qui ont une telle expérience et tout ça. Bon, voilà. Donc, du coup, on me dit, viens, on prépare la conférence de presse, tu peux venir. Bon, j'y suis allé. Et puis, à un moment donné... je m'embêtais vraiment parce que ils sont trop bons, tous ces gens là de BNM qui bossent là-dessus, ces jeunes filles, ces jeunes hommes, ils sont trop bons. Moi, je suis complètement off par rapport à ça, sauf que j'ai une obsession, c'est celle de ne pas faire de ce village de l'eau un village d'Indiens, hein, dans le sens d'un lieu de confort pas connecté sur le monde qui nous entoure. Et donc d'en faire un truc qui nous... c'est sûr, on se sent bien, mais on est d'entre-soi, quoi. Donc ça, c'est mon obsession. Je veux pas...
Mais en fait, il y a beaucoup de communautés et de gens de tous horizons, en fait, qui se retrouvent ici. De Notre-Dame-des-Landes, il y a plus d'une dizaine d'années, enfin, je te parle, moi, de ma propre expérience jusqu'à aujourd'hui, je trouve qu'il y a une ouverture et des rencontres. Moi, j'ai pu les trouver un peu austères, hein, et pas très causants, les zadistes, d'il y a 10 ans, et eux aussi, et elles aussi, ont fait beaucoup de chemin, enfin, tout le monde fait du chemin les uns vers les unes et les unes vers les autres, là. Tu as fait une prise de parole très rapide ce matin, mais qui m'a laissé un peu sur ma faim. Tu disais, voilà, cet endroit, on l'a baptisé le village de l'eau, mais il aurait pu porter plein d'autres noms.
Ouais, moi, en fait, c'est quelque chose que je cogite depuis quelques temps, et notamment parce que le maire de Mel, il a été obligé, vraiment, il a été attaqué de toutes parts, et pour, en fait, entre guillemets, se défendre, ou pour justifier sa position, là, d'avoir accueilli à Mel ce village de l'eau, il a beaucoup parlé de dialogue, de rencontres, d'échanges. Et puis, bon, il se trouve que le maire de Mel, c'est quelqu'un maintenant que j'ai appris à connaître parce que j'ai tellement participé à l'organisation de Mel il y a l'année dernière, et il se trouve qu'on fait le même métier au fond. J'ai 10 ans de plus que lui, mais je suis socio-cul, j'ai fait mes formations dans les années 70, je suis issu de l'éduc pop, et j'ai fait ce métier pour changer le monde, moi, tu vois. Donc, et puis, bah, je suis un transfuge de classe en même temps, parce que, tu vois, je viens, mon père était syndicaliste, plutôt cadre à l'époque, syndicaliste, c'est mon fils qui m'a dit ça, il me dit, arrête de dire que papy était un ouvrier, mon papy était cadre syndical, il a raison. Et donc, c'était, voilà, je suis issu de ça, moi. Et puis d'une mère, qui était aussi les femmes de l'époque, c'était beaucoup au foyer, mais du coup elles ont créé leur propre espace, elle était à la Confédération syndicale des familles. Donc voilà, je suis issu de ça. Et moi, j'en ai fait un métier, en fait, c'est trop la classe. J'ai fait d'avoir envie d'être sur l'espace public et d'aller brasser cet espace, d'aller foutre le bordel, parce que je pense que c'est dans ça qu'il se passe des choses, parce que mes ennemis, c'était les comités des fêtes. C'était les vieux, en fait, c'était les vieilles histoires, les conservateurs et tout ça, de trucs, de codes. Et moi, je voulais bousculer tout ça. Ça me construit tout ça. Et du coup, j'ai fait ce métier. Et donc là, je continue à le faire, en fait. Et je me suis senti le maire, là, avec ça. Je dis, mais oui. Et je sais, il est socio-cul, lui aussi, hein, tu vois. Et il le fait sincèrement, qu'en fait, il croit au dialogue, il croit à l'échange. C'est pas possible de faire autrement. Et c'est pas forcément, il n'est pas question de créer du consensus ou d'être consensuel. C'est pas ça. Mais c'est, moi je suis persuadé que le système agricole aujourd'hui, c'est de la merde. J'en suis persuadé. Et en même temps, je m'attaque au système. Je ne vais pas m'attaquer à la grille, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Des gros aussi quand même. Hein. Mais ceux qu'on côtoie là, bon, c'est pas suffisamment gros. Donc, je me suis dit, mais au fond, la question de la flotte, ça touche la démocratie de l'eau. On a un problème de démocratie autour de l'eau. En fait, qui décide de la gestion de l'eau ? Le citoyen, où est-ce qu'on le trouve le citoyen ? Et on le trouve nulle part. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une profession qui s'est accaparée tous les espaces de pouvoir et de décision sur la question de la flotte, et particulièrement les agriculteurs.
Les exploitants agricoles, on va dire.
Tu as raison, les exploitants agricoles.
Voilà. Et cette minorité qui est le fer de lance de l'agro-industrie, avec ce syndicat, comme vous le savez, hein, qui est la FNSEA, qui vise à la disparition du monde paysan. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait quelques grosses fermes-usines, tout ça main dans la main avec le lobby du béton. C'est de cela dont on ne parle pas des gens et de nos amis de la Confédération paysanne.
Absolument, on parle de la FNSEA. D'ailleurs, je suis allé voir qu'est-ce qui fondait ce syndicat. Et quand on regarde dessous, c'est effectivement, c'est marqué, c'est une fédération nationale, FNSEA, de défense des exploitants agricoles. Mais aussi de la défense de la ruralité. C'est marqué dessous. Défense de la ruralité. Il ne faut pas oublier ça. Ce qui, en partie, explique leur impact et que la Confédération paysanne, elle rame. Parce que la Confédération paysanne, le Monde Diplo avait fait un dossier là-dessus, elle est un peu, entre guillemets, le monde rural regarde ce syndicat comme un syndicat de gauchistes, voire urbain, pas forcément du monde agricole, enfin de la ruralité. C'est des gens qui s'inscrivent ailleurs. Et la FNSEA, ça on connaît, ça date de la sortie de la guerre, ça c'est du sûr. Voilà, on ne remet pas en cause un truc comme ça. Mais il faut quand même se souvenir que pour les élections professionnelles, pour la gestion des chambres agricoles, seuls 52% des exploitants agricoles votent. Hein. N'oublions jamais ça. C'est-à-dire qu'en clair, après c'est un principe comme pour les conseils municipaux, si tu as 50% plus une voix, c'est le jackpot, quoi. Donc c'est un peu ça le problème. Eux, ils ont le jackpot parce qu'ils arrivent à choper ça, ils font tout ce qu'il faut pour ça. Donc effectivement, il s'agit bien d'exploitants agricoles et qui représentent en plus, les irrigants, je crois, à peine 5% du monde agricole.
Où est le citoyen et la citoyenne là-dedans ? Et quel autre nom ?
Ouais, mais
est-ce que tu aurais pu
le dire ? Je ne vais pas te le dire tout de suite le nom. Parce qu'en fait, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, je me suis souvenu que la démocratie de l'eau, toutes les organisations qui prennent les décisions, alors évidemment, il y a l'agence de l'eau, mais elle, c'est la banque. Après, il y a ce qu'on appelle les comités de bassin, le gros comité de bassin, ce qui nous concerne, c'est Loire-Bretagne. Bon, et puis l'agence de l'eau, qui est la banque, c'est là qu'on est allé cet été avec le coin de l'eau. Mais en fait, le monde agricole, on retrouve de moins en moins dans le monde rural de maires agriculteurs. Sociologiquement, si on regarde les choses, avant ils étaient tous présents comme maires, aujourd'hui ils le sont moins en moins. Par contre, quand il y a un conseil municipal se réunit la première fois, la chose qu'on fait c'est de décider qui va être dans tel syndicat, dans telle organisation institutionnelle. Eh bien ils ne se trompent pas, ils vont dans les bons endroits. Donc après on les retrouve dans le comité de bassin, on les retrouve dans les clés, les commissions locales de l'eau, etc. Mais le citoyen, on le trouve nulle part. Il est off, complet.
Pourtant, il boit de l'eau, le citoyen.
Il boit de l'eau, il paye l'eau. Et il boit de l'eau. Et en fait, aujourd'hui, alors moi je vais aller vite, mais il me semble, hein, c'est une analyse comme ça que j'ai, mais en fait, on s'est intéressé à l'eau en 1962 ou 63. Je crois, avec la loi de l'eau, on s'y est intéressé un peu grâce aux Allemands d'ailleurs, parce qu'ils sont meilleurs que nous sur cette question là et en fait on s'est rendu compte, enfin l'État qui nous protège, on est d'accord, un État c'est là pour nous protéger, hein, Darmanin, tu vois, et donc cet État qui nous protège, il s'est dit attention, l'eau on la salit, on peut la polluer. Tu vois, il y a une prise de conscience que l'eau, c'était pas un truc, fallait quand même prendre soin. Donc on a fait une loi de l'eau, etc. Puis c'est de là qu'après, les créations de l'agence de l'eau, tout ça, toute l'organisation démocratique qui est devenue une usine à gaz. C'est hyper complexe. Et nous, là, citoyens, j'y arrive, tu vois, là, on est dans une phase où l'eau, tout d'un coup, putain, on prend conscience que c'est... Non, elle perd en qualité et en quantité. Donc, aïe, attention. Et on commence à s'y intéresser, et le citoyen s'y intéresse. Une organisation comme Bassine Non Merci, ce sont des citoyens qui veulent faire valoir que cette eau, elle a un usage partagé, et que ce ne peut pas être que les agris qui décident. D'où l'idée
me dire, mais en fait, pourquoi on a appelé ça le village de l'eau? On aurait pu appeler ça la commune de l'eau. Car
ah,
en fait,
nous y voilà.
Voilà, la commune de l'eau, je trouve le nom est pertinent. Parce qu'il il fait référence au commun, l'eau. Mais il fait aussi référence à une forme d'organisation. Alors, je suis allé voir, vite fait, avant la conférence de presse. J'avais pris des notes, mais j'ai pas mis les lunettes, donc du coup, ça ne servait à rien. Mais j'avais pris quelques notes sur essayer de reprendre, en fait, le sens premier des mots. Donc, la commune qui vient après la Révolution française. Et on parle même, attends, j'avais noté ça parce que je trouvais le mot assez fort. La commune est la première forme d'institution émancipée des communautés seigneuriales et des paroisses de l'Ancien Régime. On parle d'émancipation. C'est fort ce truc. Elle rompt avec le passé afin de bâtir une société nouvelle. Je reprends des termes comme ça. Ça m'a parlé tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est la commune au sens communal, au sens organisation institutionnelle de la cité. Hein, voilà. Mais il y a aussi l'autre commune, celle qu'on fait toujours référence, c'est la commune de Paris, qui a duré quoi, 2 mois et 10 jours. Alors je dis, tiens, 2 mois et 10 jours, nous, ça va durer que 4 jours. Bon, mais... cette commune, quand on lit un peu des romans historiques, ou j'aime bien lire les romans historiques sur cette période, bon, on voit quand même qu'il y avait quand même un encerclement militaire, hein, les Versaillais, il y avait du moyen. Hein. Et ben là, c'est un peu pareil, hein, on est entouré de militaires avec du moyen, on nous met la pression. C'est qu'on représente quand même un danger. Pour qu'on nous mette autant de pression, c'est qu'on représente un danger. Et ce qui est intéressant dans la Commune de Paris, c'était aussi que pendant cette période de 2 mois et quelques jours, en fait, ils ont trouvé des formes d'organisation. Et ben nous aussi, on trouve des formes d'organisation. Donc c'est un lieu de formation citoyenne. Donc commune me paraît totalement appropriée, car en fait, on crée cette commune aussi pour se former, pour monter en compétences, pour revendiquer en tant que citoyen une place dans la démocratie de l'eau. C'est dans ce sens-là que je pensais le mot commune, tu vois. Et puis moi, j'ai vu ici, tu vois, il y a plein de jeunes, tu sais bien. Et l'autre jour, il y avait une jeune, là, quand il y a eu les propos de la coordination rurale qui allait éventuellement venir renforcer les forces de police pour nous attaquer, les termes sont forts, eh bien, elle ne sait pas ce que c'est que la coordination rurale. Alors là, je me suis dit, waouh, effectivement, c'est hyper important qu'on ait des endroits comme ça de formation. Parce que j'espère que quand elle va partir d'ici, elle en saura un peu plus sur le monde agricole et sur ses organisations syndicales, ses formes d'organisation. Voilà pourquoi je parlais de commune.
Je voudrais revenir sur ce que tu disais en début de conversation, là, sur voilà, ce serait dommage de faire un village d'Indiens, de gens qui pensent tous la même chose. Ouais. Je pense qu'il y a relativement peu de gens de droite. Sur ce village de l'eau, il y a peu d'amoureux et d'amoureuses du système capitaliste, ce qui effectivement peut de loin donner une impression d'entre-soi. Cela dit, moi il me semble voir malgré tout des mosaïques d'Indiens. Enfin, en fait, on est peut-être des Indiens, mais il y a pas mal de tribus différentes quand même. Quoi. Et j'en reviens à ma petite expérience personnelle et très parcellaire. Hein. Les quelques fois où je me suis égaré sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes il y a un peu plus d'une dizaine d'années, je voyais des gens qui ne me ressemblaient pas. Enfin, je n'ai rien d'un autonome, par exemple. D'ailleurs, je sais à peine ce que ça veut dire. Et là, je vis quelque chose, mais peut-être que ça traverse sans toute la société. On a pu aussi le voir et le constater pendant le dernier mouvement social contre la réforme des retraites de 2023, où avec grand plaisir, on a été nombreux, nombreuses à voir les personnes queer, en tout cas c'était le cas dans ma ville, être très présents et présentes sur le mouvement. Et ici, je crois, enfin j'ai une impression que toutes ces tribus d'Indiens là font un effort pour aller les unes vers les autres. Quand il m'est arrivé de me balader sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je t'avoue que parfois les ZADistes, je les ai trouvés un peu rugueux et rugueuses, tu vois, surtout quand ils voient un micro. Et elles ont bien raison, hein, je ne leur donnerai pas tort de se méfier des médias, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un gros effort, parce qu'il y a quand même une dynamique qui est partie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui s'est insufflée dans ce village de l'eau. Il y a même des personnes qu'on retrouve, et je crois que ces gens ont fait aussi beaucoup de chemin en se disant, bon, notre stratégie justement d'Indien puriste de pensée politique que je ne maîtrise pas, enfin, j'ai l'impression que ces gens de la ZAD qu'on peut retrouver ici ont fait un gros effort pour se dire, on va peut-être changer de stratégie parce que rester entre nous n'est pas une solution.
Ouais,
est-ce que tu ressens ce truc-là?
Oui, il y a deux endroits. Le premier endroit, c'est effectivement
faut pas oublier que cette organisation, là autour des bassines, depuis 2-3 ans maintenant, elle associe plusieurs organisations, dont les soulèvements de la terre, BNM, mais aussi les syndicats de paysans ou le syndicat ouvrier sud et la CGT. Donc en fait, nous, on parle de composition, on compose. Donc je pense que c'est juste de dire que bah, chacun fait un pas vers l'autre. On ne cherche pas à faire consensus. Mais on bouge les curseurs de jusqu'où on va mener l'action, qu'est-ce qu'on va faire. Les curseurs peuvent bouger. Donc de fait, ça se ressent. Bon, je pense qu'on s'est encore plus depuis Sainte-Soline 2 rapproché. Il y a eu un effet, je pense. Mais effectivement, dans ce village d'Indiens, c'est pas, on est loin d'être tous pareils. Moi j'ai 67 balais, sans déconner, je me sens très vivant ici parce que bon, notamment je pense aussi. Globalement, les mouvements féministes ont traversé les mouvements sociaux comme le nôtre. Mais là, moi, il m'est arrivé cette anecdote là de Mint, tu vois. Je suis allé prendre une douche dans un espace Mint. Ceux qui entendent, là, ils vont se marrer. C'est vrai que je veux prendre cette douche sans savoir que c'était ce que ça voulait dire, en fait. Et du coup, j'ai...
Une douche à la menthe.
Ouais, c'est ça. J'ai pensé à ça, parce que je croyais que c'était écrit en anglais. Et en fait, quand une jeune femme est rentrée, j'ai senti... en fait, mais non, t'es pas dans le bon endroit. Il y a un truc qui va pas. T'es pas à ta place, là. Il y a un truc. Alors ça, c'est pas facile. Là. C'est pas facile, mais je me suis senti, voilà. Et après j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait comprendre que je peux être un peu chiant de trop la ramener avec cette histoire. Là,
alors, cette du anecdote... coup, tu vas peut-être pouvoir en éclairer quelques-uns et quelques-unes qui écoutent cette émission.
Ah,
ça
bah,
veut dire si mint, ça veut pas dire mente, ça non, veut non, dire
mint,
quoi?
Mint, ça veut dire, c'est un acronyme, ça veut dire meuf, intersexe, non binaire, trans. Voilà, c'est clair.
Donc, et bon, que c'était pas une douche pour mec cis.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, bah maintenant, ça a été écrit dessous, hein, ça va être précisé. Ce que je veux dire là, c'est que profondément, j'ai été un peu dans un mode oh, putain, fais chier, ils auraient pu le dire, et ça pouvait m'emmener sur des mauvaises routes. Et j'y trouve.
Tu t'es senti exclu.
J'ai pu me sentir un peu exclu, voilà, à ce moment-là, mais c'est pas. Et voilà. Et mais du coup, heureusement, j'ai une femme féministe. Et quand je lui ai raconté ce truc-là.
Chérie, tu te rends compte, il y a des espaces en non-mixité.
Non, non, c'est pas du tout comme ça. Non, je lui ai parlé de ce que ça m'avait fait, en fait. Et elle me dit, mais en fait. Ce que ça t'a fait, bon ok, elle le comprend, hein, bien sûr, mais elle me dit, mais au fond, c'est que dalle. Par rapport à ce que vivent les gens qui ont osé le revendiquer, cet espace. Et là, j'ai compris, évidemment, bien sûr. Moi, dans ma position là, d'homme 6, bah, honnêtement, je ne suis pas en danger, d'une part, surtout pas, mais c'est pas ça le problème, mais c'est surtout qu'il y a des gens qui vivent des situations d'exclusion, des situations je ne suis pas à ma place, etc., depuis des années, et qui là, ils sont en train à notre village là, l'espace, le village suffisamment sécure pour pouvoir le faire, et puis bah, de venir me bousculer. Bah, moi, je trouve ça super. Donc au final, effectivement, c'est un village indien, mais avec, comme tu l'as dit justement, c'est une mosaïque de gens. On n'est pas tous pareils, loin de là. Il y a tous les âges, il y a tout un tas de communautés de gens, de communautés culturelles, etc. et sociales. Mais il n'empêche que quand même, moi, le rapport à l'extérieur m'intéresse parce qu'on a quand même une unité de pensée en termes anticapitalistes, de rapport au monde, etc. Je pense qu'on a quand même une unité de pensée et qu'il y a du danger de ne pas savoir ce qu'ils pensent à côté, voire de ne pas les rencontrer. Donc moi, ça m'intéresse qu'on puisse provoquer des espaces de rencontre. Donc voilà,
juste pour clore sur cette histoire de Mint, là, je sens chez toi une joie et une jubilation, en fait.
Maintenant, oui. Après, ouais, ça m'a, en fait, je trouve ça chouette que je puisse encore être surpris, en fait. Voilà. Et donc, c'est plutôt joyeux de savoir.
Donc, c'est la bonne nouvelle, on peut apprendre des trucs tout le temps jusqu'à la mort,
ouais,
quoi.
Carrément. C'est ça exactement ce que ça me fait. Et de me dire, ouais, mais moi, je peux dire, j'ai vécu ça, en fait. Et ça veut dire que je suis dans un endroit où je peux. Ça veut dire que je suis vivant, tu vois. T'imagines je pourrais, je sais pas, être devant une télé, ou je sais pas quoi, regarder le monde à travers ce qu'on veut bien m'en faire passer. Moi, non, là. Je suis connecté avec. Avec des mouvements, des choses, des jeunes gens qui vivent des trucs que moi j'ai au même âge, évidemment, je pense peut-être que j'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui sur plein de trucs. Hein, en tant que mec, honnêtement, moi j'aurais aimé avoir 20 ans aujourd'hui, en tant que mec. Parce que nous, avoir 20 ans, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, fallait être puissant, fallait être fort et tout. Et en fait, c'est pas mon truc. Tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, je trouverais des espaces où je pourrais manifester que c'est pas mon truc. Et puis, je rencontrerais aussi des gens du sexe féminin. On dit ça,
Féminin. Je crois qu'on peut dire tellement de choses parce que la vie est tellement riche et inventive.
On me dise, on n'attend pas de toi de la puissance. Ah, ça, je pense que ça m'aurait fait le plus grand bien.
Ce village-là, de la Rochénard à Sainte-Soline 1, Sainte-Soline 2 et aujourd'hui, en fait, c'est jamais le même village non plus. Enfin, c'est en constante évolution. Il suffit juste de venir pour voir que l'ambiance n'est jamais la même. En fait, ça bouge, quoi.
Ah ouais, ça bouge énormément. Carrément, c'est sûr que ça, entre la Rochénard et aujourd'hui, du chemin de fait, bon, on retrouve un
juste
peu...
Juste en 2-3 ans, quoi.
Ouais, carrément. Mais oui. Alors ça, on est quelques-uns ici, quand on imagine que c'est très loin la Rochénard, en fait, c'est pas si loin que ça, on se dit, ouais, vache, qu'est-ce que ça...
2022, la Rochénard.
Ouais, 2022, la Rochénard. Donc c'est que dalle, on est 2 ans après. Ouais.
Il s'en est passé des choses, hein.
Il s'en est passé, ouais. Bon, il y a eu Sainte-Soline 2, c'est quand même... On est tous un peu trauma quand même par ce qui s'est passé là. Et voilà.
Est-ce que c'est pas le fait aussi d'avoir pris ensemble ces 5000 grenades dans la tronche, certains et certaines plus que d'autres? Moi, je t'avoue que j'étais un peu en retrait quand même, un peu trop près des quads du coup. Mais bref. Est-ce que cette épreuve aussi n'a pas créé un besoin d'aller les uns vers les autres, de se renforcer, de s'unifier, de se rencontrer? Cette épreuve, elle nous aura un peu soudés aussi. De vivre ensemble ce traumatisme, pour le coup, on a été condamné à une expérience commune, quoi.
Ouais, ça, j'en suis persuadé. Après, on a appris à mettre des mots, peut-être maintenant ensemble, des mots sur ce qui a été vécu à ce moment-là, peut-être des mots plus partagés. Je repense à la soirée immédiate après Sainte-Soline 2, donc le soir à Mel, là. Je pense qu'à ce moment-là, on n'était pas encore trop... on était sonnés, hein, et du coup, on pouvait raconter des conneries. Je dis ça, mais je pense à des trucs. Mais aujourd'hui...
T'as pensé des conneries à ce moment-là?
Bah en fait, tu vois, moi, j'étais pas à Sainte-Soline puisque j'étais tellement dans l'organisation de Mel que comme d'autres copains, on pouvait pas quitter Mel. On venait de faire un truc de dingue et organiser un truc pour accueillir Sainte-Soline. On pouvait pas quitter Mel. Donc, on vivait Sainte-Soline par téléphone, par truc interposé. Tu vois, on l'a vécu comme ça. Et après, on s'est parlé, les copains, les copines qui nous ont raconté ou pas ce qu'ils avaient vécu. On a pris progressivement l'ampleur du truc. Le truc de dingo. Puis après, on est quelques-uns à avoir vu comment... moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est en fait de voir comment, à Mel, chez certaines personnes, ou dans les journaux surtout, et dans un certain monde agricole aussi, qui avait aucune empathie, aucune compassion par rapport au fait qu'on a failli tuer des gens, quoi. Et ça, moi, j'ai été choqué de ça, ouais.
Alors, ça a été légitimé par un discours médiatique dominant de « bah oui, mais bon, ces gens sont violents ». Voilà, et je t'entraînerais volontiers aussi vers une réflexion en quelle différence ferais-tu, toi, entre un rapport de force et une violence, fût-elle légitime, qu'on pourrait même qualifier d'autodéfense, quoi. Mais en tout cas, voilà, pas d'empathie, parce que y a ces black blocs qui sont venus casser du flic, ce qui était inexact, et ensuite des gens prêts à en découdre sur les 30 000 manifestants de Sainte-Soline 2. Il n'y avait pas 30 000 personnes en train de jeter des trucs sur la maréchaussée, hein. Okay. D'ailleurs, la maréchaussée a tiré la première.
Ouais, le film of investigation, là, sur autopsie d'un carnage annoncé, il le montre bien, cette histoire. Et puis surtout, il y a le témoignage de ces jeunes fille Alix, tous les parents de la Terre peuvent se retrouver comme parents de cette jeune fille, tu vois. Il y a eu Serge et Mickaël, attention, beaucoup de respect, hein, on est bien d'accord. Mais certains pourraient dire, ouais, mais bon, c'est un militant, machin et tout, mais cette jeune fille Alix qui va là-bas à 20 ans et qui se fait exploser la tronche alors qu'elle n'a même pas encore mis un pied sur le terrain, c'est carrément dégueulasse. À ce moment-là, tu te dis, tous les parents, s'ils voient ça à 20h30, normalement, dans des télés où ils regardent, il pourrait se dire, mais Darmanin, c'est un assassin, il faut qu'il aille en prison. Moi, je pense ça. Ça pose la question de l'État et sa fonction première. Un État, il est là pour nous protéger. On parle de protection sociale, mais pas que. Il est là pour nous protéger. Et là, lui, Darmanin, il ne fait qu'attiser la haine, il ne fait que d'amener... Bien sûr qu'il y a, il y a cette question, il défend un système économique, etc. Mais putain, il va loin quand même. Enfin, ce mec, j'ai beaucoup de détestation de cette personne, de ce qu'il représente en fait. Voilà. Alors on est en plus, t'as vu, on est dans une période, on ne sait pas, est-ce que... On va avoir, parce que lui, il va se casser demain, je crois, mercredi, c'est son dernier jour. Mais mine de rien, avant de partir, il est venu à Niort hier. Il est même passé au-dessus de nous, je pense, en hélicoptère. Il est venu et il a annoncé qu'il y aurait 4000 policiers et puis qu'il y aura plein de casseurs, que ça va être le bordel et la manifestation est interdite. Et voilà. Donc, ça fait chier, quoi. Voilà. Je pense, quoi, je crois que j'ai eu la nouvelle que la manifestation était interdite. Bon. Vivement, enfin je sais pas, moi on va pas parler du nouveau Front Populaire, mais moi je, comme énormément de gens, je pense qu'on a besoin d'un gouvernement qui vienne nous redonner de la protection sociale, de la protection aussi. Alors c'est drôle de parler comme ça, mais le policier il est là pour nous protéger, il n'est pas là pour nous tirer dessus et puis nous amener de la justice, voilà, enfin tout quoi. C'est son métier, son boulot normalement. Voilà, donc s'ils le font pas là, s'ils font pas ça, s'ils se passent pas là, putain, alors là, on est peinard pour le Rassemblement National la prochaine fois, ils cartonnent. Hein. Parce que c'est que ça qui peut les arrêter. Il y a des gens, ce serait pas compliqué, je pense, qu'ils puissent penser différemment, voir le monde différemment, pour peu qu'on s'intéresse à eux, qu'on aille les échanger avec eux, faire des choses avec eux, leur montrer que d'autres mondes sont possibles, hein, ce fameux slogan du début du siècle. Là.
Quand tu as des interlocuteurs tristes qui te disent « oui, mais vous êtes violent », tu réponds quoi ? Oui, mais vous l'avez bien cherché parce que vous êtes violent.
Je dirais qu'en fait, la violence, elle est d'abord la violence policière, elle est d'abord la violence de l'État. C'est lui qui met ce niveau de violence, enfin, ça j'en suis persuadé. La preuve, c'est que quand il n'y a pas de flics, il n'y a pas de black bloc, hein, objectivement. Bon, alors là, à Sainte-Soline, il y avait l'idée d'aller manifester notre désaccord de cette bassine, aller en faire le tour... Voilà, ils ont décidé d'une manière extrêmement violente de nous massacrer pour pas symboliquement qu'on aille mettre le pied dans la bassine.
Bassine qui n'était même pas équipée de sa bâche, enfin non, elle était même pas finie cette bassine.
Elle avait rien.
C'est juste un trou quoi.
Ils ont défendu un trou, mais enfin qui derrière va être bâché, etc. Tu vois toute l'économie que ça amène, hein. C'est plein de fric tout ça. Il faut la fabriquer la bâche. Hein. Tu vois, ça fait bosser, ça fait gagner de l'argent à certains, tout ça. Et puis bah pour ça, on est prêt à tuer des gens, et des jeunes, nos enfants, bah, vraiment.
Et on est bien d'accord, c'est bien la police qui a ouvert les hostilités. Bah,
ça
quoi,
a été prouvé, t'as vu,
la police, les gendarmes.
Il y a le rapport de la Ligue des droits de l'homme avec tous ces observateurs qui ont écrit un dossier monumental. Honnêtement, c'est une organisation indépendante, ils n'étaient pas... jugés partis sur cette histoire-là, ils se sont donné les moyens, en tous les cas, d'observer, de prendre note et de témoigner. Bon, leur témoignage, il est accablant pour la police de Darmanin et pour l'État, enfin, il me semble. Hein. Enfin, j'ai pas vu dans ce rapport que des jeunes soient allés... D'ailleurs, quand, les Black Blocs, moi, les Black Blocs ou les déterres, je ne sais pas comment les appeler, à Sainte-Soline, j'ai souvenir avoir fait énormément de choses avec eux. C'était très nouveau pour moi. Tiens, on parlait de Mint, je peux parler de ça aussi. C'est-à-dire, tout d'un coup, on rencontre des gens masqués tout le temps. C'est pas dans ma culture, ça. Et puis, comme il fallait se faire à manger sous le chapiteau, là, on faisait des soupes, on épluchait des carottes. Moi, j'épluchais des carottes, des pommes de terre avec des gens masqués avec qui j'échangeais, des jeunes gens, des jeunes filles, des jeunes garçons, parce que ce mouvement là c'est pas que des mecs, hein, c'est pas masculin, hein, dans le sens masculinisme c'est pas du tout le cas, et en fait on a pris le temps de se rencontrer. Moi je peux exprimer de voir des gens très conscientisés politiquement, extrêmement pertinents et conscientisés. Leur ennemi, il est clair, hein, c'est effectivement le capitalisme, c'est des gens qui font profit en exploitant les autres, donc voilà, et c'est leur cible. C'est pas le gendarme leur cible. D'ailleurs, je crois, pour en avoir entendu là-dessus, c'est qu'ils visent le matériel. Jamais ils visent un policier. Ils visent jamais un policier. Hein, s'il y a un cocktail Molotov, ça peut arriver. Mais il y en a toujours, hein, quand dans l'histoire, si on prend l'histoire des luttes ouvrières, etc. Moi, je viens de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Les gars, ils mettaient des boulons dans les sableuses. Hein. Donc, le rapport de force, il était en autre sens, pour le coup. Et là, donc, bon, c'est bon, la violence, dans la lutte, elle a toujours été présente. Mais là, eux, ils tirent avec des armes de guerre, ils tirent à l'horizontale. Pour moi, ils étaient autorisés à tuer. Il n'y a pas eu de mort, pas eu de Rémi Fraisse 2, mais honnêtement, on n'en était pas loin quand même. Hein. Enfin, en tous les cas, Serge, cette jeune fille Alix et Michael, les trois dont on parle, mais il y en a 200. Il y a plein de gens qui ne se sont pas... et je pense à eux, et c'est des gens traumatisés. Il y a un avant et un après. Des gens mutilés, des gens... Enfin, c'est effroyable, en fait, cette histoire-là. Et c'est plutôt... pas que, il y a ici des gens que j'ai rencontrés, des gens de mon âge qui ont pris cher aussi. Quand il y a un mec, là, il a mon âge, il a des acouphènes depuis, il a des pertes d'équilibre, ça a changé sa vie. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire et tout, à cause de ces putains de grenades là, assourdissantes, par exemple. Puis il y en a d'autres qui sont blessés en leur chair à cause des grenades, des encerclements. Et d'autant plus quand elles sont tirées à la verticale, c'est dégueulasse. Les flashballs, là... Donc la violence, on a discuté de la violence, parce que quand on a voulu aller rencontrer les élus, on a fait des assemblées générales, il y avait, je me souviens, une personne, une jeune femme qui disait, moi la violence sur le matériel ne me gêne pas, je l'assume totalement. Par contre la violence sur la personne, non, c'est pas possible pour moi. Donc mais sur le matériel, désarmer une bassine, sans problème, j'assume. Par contre, je n'assumerai pas d'aller tirer sur... faire mal à un agriculteur ou à un policier. Voilà, nous on parle comme ça. J'aimerais bien savoir comment eux ils parlent en face. Je sais que nous le savons que parmi les gendarmes qui étaient présents de Sainte-Soline, certains, je dis certainement une minorité, mais ont été vraiment psychologiquement blessés.
Il y a eu des arrêts maladie.
Il y a eu des arrêts maladie. Effectivement, on dit même peut-être même des burn-out dans la gendarmerie à cause de ça. Ou des jeunes gendarmes qui n'imaginaient pas que leur métier serait un truc pareil, quoi. Ils disent, mais attends, on n'est pas venu gendarme pour ça.
Écoute, j'ai eu un peu ce sentiment-là en venant hier. Je suis passé à travers un barrage de gendarmes. Enfin, je suis passé à travers, j'ai été contrôlé, bien sûr. Mon sac a été fouillé par un jeune homme, je pense que j'étais assez vieux pour être son géniteur, un gros bébé. Hein. Mais dans son attitude, enfin la chef avait le dos tourné, là, la galonnée, et j'ai eu le sentiment, évidemment ils ne sont pas payés pour ça, mais j'ai eu le sentiment que le gars ça le faisait chier, que ça les faisait chier. Je suis arrivé, j'ai fait une petite blague en disant tiens, si je vous vois là, c'est que je suis sur la bonne route, ça les a fait marrer. Alors après ils se sont raidis quand la chef est ressortie de derrière le fourgon et ils sont là pour obéir aux ordres, donc ils le font. Ils ont bombé un peu le torse et tout, mais peut-être que je me trompe, mais j'ai eu le sentiment que là ce jeune homme qui a fouillé mon sac, en fait, ça l'emmerdait en fait. Évidemment, on n'a pas fait de philo, hein, il n'était pas là pour ça et moi non plus. Quoi. Mais bon, et quand je suis reparti, il m'a dit, est-ce que vous avez une lampe torche sur votre téléphone portable? Parce qu'il fait sombre dans les champs, hein, faut faire attention à ne pas vous blesser. tu te dis, mec, ça te fait chier d'être là.
Ça peut arriver, mais en fait, ça peut arriver.
C'est pas une majorité, hein, mais le fait est que ça m'est arrivé.
Ça peut arriver, mais faut pas oublier quand même que dans la police et la gendarmerie, il y a un paquet de gens plutôt proches.
La moitié vote Front National.
Il ne faut pas l'oublier ça. Mais c'est d'autant plus amplifié quand ils ont un ministre qui leur donne l'autorisation. Quoi. Et là, moi, je l'ai bien senti avec ces barrages. Là, moi aussi, j'ai été bloqué. Je sais pas, on m'a empêché de passer en bagnole. Enfin, je t'en passe. Fouillé, tout ça. Et je me dis, tu tombes, j'ai rencontré, parce qu'on est des multiples barrages, ça nous permet de rencontrer une multitude de gendarmes et de policiers différents et d'attitudes.
Il y en a des très zélés aussi.
Il y en a des très zélés, ça que je voulais dire. Et qui se sentent d'autant plus autorisés que leur grand chef leur a dit, allez-y, faites-les chier, parce qu'ils font chier sur leurs gars ici. Hein. Ils ont bloqué les extincteurs, ils ont empêché, il y a un copain qui a emmené une tente pour répondre à une commission de sécurité dans le camping bénévole, qui a été bloqué, pris le barnum qui devait emmener, etc. C'est que des conneries comme ça.
Ouais, il y a eu du matériel médical qui a été bloqué ici, ce qui fait que l'actuel ministre de l'Intérieur dit ces gens sont insécures, ils font de l'insécurité, mais en fait on ne donne pas, en tout cas on a entravé la démarche de rendre ce village de l'eau sûr.
Je crois que ça c'est la première fois qu'on le voit. Il y a une copine qui disait ça, elle dit, ils utilisent vraiment même les outils administratifs, quoi. En clair, ils nous bloquent sur... ils veulent nous bloquer sur notre propre organisation. Comment on dit ça? Déstabiliser sur notre propre organisation. Nous obliger à amener de l'énergie sur des trucs qu'on ne devrait pas faire, parce qu'on les a réglés, ces trucs-là. Mais comme ils nous empêchent d'amener le matos, ça nous met dans la merde. C'est leur truc. Ils ont des ordres comme ça. Bon, très honnêtement, le coup de que la manifestation soit interdite, alors en même temps, on va dire, mais t'es bisounours, mon vieux, évidemment qu'elle est interdite, mais non, j'aurais pu imaginer autre chose en cette période. Je pensais, je sais pas, mais il s'en va demain, donc on ne sait jamais. Hein. On ne sait jamais. Donc peut-être que jeudi, peut-être que l'État, à ce moment-là, dira, bah non, faut autoriser cette manifestation, et peut-être ça peut tout changer, je sais pas.
En fait, on parlait de Darmanin qui s'en va donc bientôt au moment où on se parle. J'ai il y a peu de temps co-signé une plainte pour mensonge contre le ministre de l'Intérieur Darmanin. Je pense qu'on a été nombreuses à le faire. Et tu sais ce que c'est devenu ce truc-là ?
Non, je ne sais pas. C'est vrai qu'on peut poser...
Darmanin a menti comme un arracheur de dents.
La commission, il a menti, ouais. Et donc il y a une plainte qu'on a été nombreux à signer. Mais non, mais tu sais, c'est long. Je crois que c'est long en fait. Puis en plus un ministre de l'Intérieur, quoi, tu vois. Je sais pas. Je peux pas répondre à ta. Mais je pense que si ça avait un peu avancé, on l'aurait su. Donc ça veut dire que ça n'a pas avancé. Mais la plainte a été déposée. Donc à un moment donné, elle sera traitée. Oui, on va l'avoir, lui, hein. Un jour ou l'autre, ça va ressortir. Est-ce qu'il est jeune? Donc certains sont morts depuis, mais lui, s'il fait attention à lui, il sera encore vivant et peut-être un jour il passera en procès. Il sera condamné, il est en prison. Darmanin en prison.
Il aura un bracelet électronique en or.
On connaît un comme ça, ouais.
Qui était ministre de l'Intérieur aussi, et même président.
Et il a même été président. D'ailleurs, je crois que c'était un peu pour notre ministre actuel, c'était un mentor un peu, hein, l'idée, je vais faire comme lui. Donc ils se sont même rencontrés, comment t'as fait, tout ça. Bon là, on commence à raconter des conneries. Hein.
Non, je trouve pas. Pour en revenir à cette manifestation, donc au moment où on se parle, qu'on annonce interdite, la stratégie quand même me semble tout à fait étonnante, c'est La Rochelle, je crois, hein, le port de la Palice, puisque, ouais. Et ça se justifie, hein, puisque c'est par là qu'arrivent toutes les pesticides et les saloperies qui polluent nos terres, notre eau et tout ça, et c'est par là aussi que s'en va ce maïs destiné à fabriquer des hamburgers à l'échelle de la planète, et donc on comprend bien la symbolique du port de la Palice de La Rochelle. Tactiquement, c'est très étonnant, quoi, cette manifestation interdite.
C'est intéressant qu'on aille sur cet objectif-là pour ce qu'il représente symboliquement. Après, moi, ça me rappelle quand on était parti de Niort pour aller à la bassine de Mosée, on était parti en bagnole aussi. On avait fait des convois en voiture. Why not? Je veux dire, comme les agriques, leurs tracteurs nous allaient en bagnole, ça peut être puissant, hein. Moi je compte là-dessus, pour moi ça peut être puissant d'aller à la Palice en bagnole, faire du monde sur la route, ça va foutre un sacré bordel, surtout là en ce moment, on est quand même une période touristique importante dans le coin là, du côté de La Rochelle, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, là pareil, tu vois, j'espère vraiment que ça va bien se passer, que... voilà.
Dis donc, ça donne soif tout ça, on pourrait peut-être aller boire un coup. Hein.
Putain, qu'est-ce qu'il parle le journaliste, c'est impressionnant.
Mais non, je suis pas un journaliste. Mais par contre j'ai soif.
Bon, allez, on va boire un coup, camarade.
Ici le Poitou. Suivez et vivez la mobilisation contre les méga-bassines avec Méga Radio. Le couteau suisse, anti-bassine.
Non mais évidemment si tu le colles, ça... Voilà.
Tu mi devi seppellir. E
autonome.